Radio Capi.
René Lindsay Bonera pour le journal.
Mesdames, Messieurs, merci. Je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Capi. Ils débarquent dans les maisons des civils, armés des fusils et des machettes pour y semer la terreur. Il s'agit des bandits qui profitent du faible nombre d'éléments de l'ordre pour imposer les lois à Ouattara dans les Haut-Touélé, situation difficile à vivre pour les habitants. Comment fluidifier les transports entre Kinshasa et Matadi en contournant les embouteillages devenus quasi quotidiens? La dynamique Raoul Mavungu propose la construction d'un chemin de fer présenté comme une solution viable. Nous serons à Goma pour parler de la clôture d'une formation en initiative personnelle organisée par Eastern Congo Initiative et destinée à plus de 50 adolescents afin de le préparer à devenir les leaders d'Edaman. Le chef de bureau John Pakanié est notre invité. Et d'abord, cette alerte par les acteurs de la société civile. Nous sommes dans le territoire de Ouattara, dans la province d'Haut-Touélé. Ces derniers dénoncent la recrudescence du banditisme armé dans cette partie de la province. En même temps, ils réclament les redéploiements de forces de sécurité dans le village jugé insécurisé, tout en appelant bien sûr les autorités à agir. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
La peur continue de gagner les habitants du territoire de Ouattara. Selon des acteurs de la société civile, des hommes armés de fusils et de machettes multiplient les incursions nocturnes dans plusieurs localités. Le cas le plus récent s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi à Doubélé, à une vingtaine de kilomètres de Ouattara centre. Entre 11 et 16 boutiques ont été pillées. Les assaillants sont repartis avec de l'or, de l'argent, des téléphones et d'autres biens de valeur. Pour la société civile, cette insécurité est favorisée par le faible nombre de policiers présents dans les villages. Une grande partie des effectifs serait affectée à la sécurisation des sites miniers au détriment de la protection des populations. Écoutez Achidri Droma, responsable local de la société civile.
Le nombre de policiers sont tous dans les sites miniers. La population est abandonnée. Notre plaidance est auprès des autorités qu'ils puissent d'abord exécuter la décision de notre chef de l'État. Comme il avait dit que tous les militaires et les policiers qu'ils quittent d'abord les sites miniers, mais sur le terrain, pas d'exécution.
Les habitants demandent ainsi au gouvernement de redéployer davantage des policiers et de militaires dans les agglomérations afin d'endiguer ces attaques qui, selon eux, entretiennent depuis plusieurs années un climat d'insécurité. Sollicité, les autorités territoriales n'ont pas encore réagi. Jean-Claude Loki, qui est Radio Capi.
Jean-Claude Lokidile, je veux vous garder, mais cette fois-ci, nous prenons la direction des Banyali Kilo dans les territoires de Djougou, où les conséquences des violences restent profondément perceptibles malgré l'accalmie sécuritaire observée depuis l'année dernière. Le retour des déplacés demeure limité, l'hôpital d'Itendei reste hors service et l'économie est encore en reconstruction, un état des lieux dressé par les chefs de secteur de cette entité. Des précisions.
Selon le chef de secteur Innocent Manduka Dalla, seuls 20% des déplacés ont regagné leur village. Beaucoup retrouvent leurs maisons incendiées et commencent à reconstruire des abris de fortune, notamment sur l'axe Kilo, Andassia, Lisei, Kabakaba. Autre défi majeur, la santé. L'hôpital général de référence d'Itendei n'est toujours pas réhabilité, une situation qui complique la prise en charge des malades alors que la zone compte entre 10 et 15 cas suspects et des cas contacts de la maladie à virus Ebola. Les évacuations sanitaires dépendent d'une ambulance en provenance de Mongwalu située à plusieurs kilomètres. Innocent Manduka Dalla.
Quand l'hôpital sur place ne fonctionne pas, pour une intervention, il faut faire recours à Mongwalu, le temps de venir constater les cas, vous voyez ce que ça fait.
Sur le plan économique, la reprise reste progressive. À Kiloita, par exemple, les activités commerciales ont repris à environ 50%, tandis que plusieurs villages demeurent peu fréquentés par crainte de la sécurité. L'agriculture peine également à redémarrer. La banane plantain, aliment de base de la population, est devenue rare et provient désormais de Bounia, entraînant une forte hausse des prix. Pour les autorités locales, le véritable retour à la normale passe avant tout par un rétablissement durable de la sécurité et la relance des activités agricoles. Agricole, Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Comme annoncé au sommaire, la dynamique Raoul Mavungu tire la sonnette d'alarme sur les problèmes des transports qui freinent les développements du Congo central. Selon ces mouvements citoyens, les difficultés des circulations observées sur la route nationale numéro 1 constituent un sérieux obstacle pour la province. Elles pénalisent le commerce, ralentissent les transports de personnes et des marchandises et entravent également l'essor du tourisme. Face à cette situation, la dynamique appelle le gouvernement national, le gouvernement provincial, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo à construire un chemin de fer moderne à double voie reliant Kinshasa, Matadi et Moanda, présenté comme une solution durable. Élisée Kavira pour les détails.
Selon ce mouvement, la construction d'une nouvelle voie ferrée moderne à double voie constitue la meilleure réponse à ce problème qui perdure depuis plusieurs années. Cela au regard des difficultés dénoncées par l'ONATRA dans la remise en service des trains voyageurs et marchandises. Rigen Mwanda, coordonnateur provincial de cette structure, plaide pour la réalisation de ce projet.
Avec les rails, nous désenclavons le Congo central. Nous baisserons le coût de la vie. Construisez les rails pour le peuple du Congo central. 21 heures de route de Mwanda à Kinshasa, c'est trop.
La dynamique Raoul Mavungu réclame également la fin du quasi-monopole de transport par camion qu'elle considère comme l'une des principales causes des difficultés de circulation sur la route nationale numéro 1 Matadi Kinshasa Mwanda.
Le détenteur des camions porte-conteneurs et remorques préfèrent sacrifier le bien-être de la population pour leur profit personnel.
Pour ce mouvement citoyen actif au Congo central, l'avenir de la province passe désormais par le développement du transport ferroviaire. Un appel pressant est ainsi lancé aux autorités afin de sortir la province de cette impasse du transport. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Nous quittons Matadi pour Kananga. Fin d'un calvaire de 6 ans pour des milliers d'habitants de Chikapa au Kasaï. La régie des eaux officiellement rétablie le week-end. La distribution d'eau potable à la colline des Kélé, privée de ses services depuis l'effondrement du pont reliant la zone au centre-ville. Un retour à la normale très attendu pour les populations de Mbumba et Mabondo, longtemps confrontées aux difficultés d'accès à cette ressource essentielle. Dans le même temps, la société des distributions d'eau appellent ses abonnés en contentieux à régulariser leur situation afin de garantir la continuité du service. Les détails avec André Katendengala Mouloumé.
6 ans d'attente, puis enfin l'eau est revenue. Sur la colline de Kélé, les robinets de la régie des eaux coulent de nouveau. Une reprise qui soulage des centaines de familles longtemps contraintes de parcourir des longues distances à la recherche d'eau.
On partait puiser l'eau dans la commune de Dibumba. Maintenant là, nous avons l'eau potable dans notre commune de Mbumba. Nous sommes très contents.
Cette reprise de la desserte en eau potable est aussi un défi pour la régie des eaux. L'entreprise demande aux abonnés de régulariser leur situation. Émile Lossambé, directeur provincial de la régie des eaux, invite les clients en litige ou en retard de paiement à se rapprocher de ses services. Objectif, répartir sur des bonnes bases et garantir un approvisionnement durable.
L'eau est déjà là. C'est à vous de venir vers la régie des eaux. Vous avez été abonné de la régie des eaux? Si vous avez des dettes, venez, on va négocier. Si vous n'avez pas de la totalité, vous pouvez payer un acompte commun de l'eau. Ceux qui n'ont pas de raccordement, qu'ils viennent souscrire un raccordement à la régie des eaux.
La régie des eaux promet de poursuivre ses efforts pour améliorer la distribution d'eau potable dans d'autres communes et territoires de la province. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Nous parlons de bâtisseurs du service national qui sont à l'œuvre dans les districts de la Tchangou, ici à Kinshasa. Ils ont lancé vendredi une offensive majeure contre l'insalubrité dans cette partie de la capitale. Une journée assez inédite pour les habitants de cette partie de la capitale qui observaient ces bâtisseurs en combinaison bleue et bottes jaunes. Du coup, ces milliers de jeunes formés à Kanyamakasese transforment le visage du boulevard Lumumba. Nous sommes ici à Kinshasa. Notre reporter Benjamin Moudoumbi a sillonné les tronçons à l'un des bonhommes à l'aéroport d'Njili. Suivez son récit.
Du pont Matete jusqu'à la place Pascal sur le boulevard Lumumba, l'air semble soudainement plus léger. Là où s'entassaient la veille des tonnes d'immondices et des marchés pirates étouffant, l'espace public régnait sous nos yeux. Armé des pelles, des râteaux, le bâtisseur nettoie sans relâche. Fini les embouteillages monstres provoqués par le désordre urbain. La circulation est fluide à la grande satisfaction des conducteurs. Pour les riverains, c'est le choc visuel. Plusieurs habitants de la Changu affirment que le changement est direct. C'est visible et palpable. Les montagnes de déchets qui gâchaient notre quotidien disparaissent, disent-ils. Voir ces jeunes travailler avec autant de disciplines militaires nous redonne enfin de l'espoir pour Kinshasa. Les embouteillages sont plutôt visibles sur le passerelle au niveau du marché de la Liberté et de Kingasani Pascal. Les bâtisseurs orientent hommes, femmes et enfants à les utiliser. Ces passerelles ont longtemps été négligées par la population qui préférait enjamber les séparateurs à leurs risques et périls. Cependant, les grands défis, selon plusieurs Quinois, restent désormais la pérennisation de cette propriété retrouvée pour que l'engouement d'hier devienne une habitude définitive.
Nous parlons de la ville de Goma qui est confrontée au choléra. Plusieurs cas ont été détectés ces derniers jours dans certains centres de santé de cette ville du Nord Kivu. À titre d'exemple, en seulement 2 semaines, au moins 18 malades ont été reçus au centre de santé CCLK. Selon l'infirmier titulaire de cet établissement, la saison sèche actuelle qui frappe de plein fouet les familles les plus démunies est l'une des causes de cette recrudescence. Faute de moyens pour acheter de l'eau potable, de nombreux ménages n'ont d'autre choix que de puiser directement dans les lacs Kivu. Conséquence, les cas de choléra explosent et les équipes médicales sur place sont presque débordées. On écoute Moimi Ndaya Dubois.
Nous faisons une surveillance active dans la communauté et les relais communautaires sensibilisent la population sur l'hygiène, sur la prise de l'eau propre. Malheureusement, comme nous sommes dans une période sèche, là où la population n'a pas aussi assez de moyens pour se procurer de l'eau, la grande partie puise de l'eau au lac. Ce qui fait que nous avons beaucoup de cas de choléra ces derniers temps. Et on ne sait pas s'y prendre, il se casse peu du contrôle parce que ça nous casse les pieds, nous sensibilisons, nous faisons les sites de chloration aussi. Mais jusque là, on n'a pas encore maîtrisé la situation. Et au niveau de CCLK, la semaine passée, je référais au moins 6 cas et la semaine antérieure, j'étais au-delà de 12 cas. Nous conseillons toujours de prendre l'eau potable et pour y arriver, il faut respecter ce que disent les relais communautaires et ce que disent les prestataires, infirmiers, médecins.
Face à l'urgence, les relais communautaires intensifient la sensibilisation de la population sur les règles d'hygiène ainsi que les premiers signes du choléra. Il s'agit des vomissements ou des diarrhées violentes qui peuvent causer la mort par déshydratation, ajoute l'infirmier titulaire du centre de santé CCLK Keshero. Nous sommes dans la ville de Goma. Nous prenons la direction du Kasaï oriental. Avec cette histoire assez insolite, une pratique étonnante s'est en effet installée depuis plusieurs semaines au marché Odia David, ex-maréchal, où des policiers chargés de la sécurité journalière apposent la mention Oc sur les bras des femmes vendeuses de maïs pour attester du paiement d'une prime. Une méthode artisanale contestée mais devenue routine dans ces marchés des Mbujimayi très fréquentés. Égard à celles qui désobéissent à la règle, elles sont mal considérées par ces hommes en uniforme. Explication dans ce reportage signé Esther Dalafina.
Au milieu des allées poussiéreuses du marché Odia David, les femmes vendeuses du maïs se sont assises à même le sol. Chaque matin, elles tendent le bras pour recevoir un ok tracé au stylo bleu par les policiers chargés de la sécurité. Ce marquage sert de preuve de paiement d'une prime journalière, raconte une vendeuse.
Les policiers entrent au marché et demandent 200 francs pour le vélo. Si tu n'as pas 200 francs, tu donnes le maïs comme contre-valeur. Ils font les signes ok sur ton bras. Parce qu'ils sont en deux groupes, ceux qui collectent et ceux qui contrôlent. Quand ils te posent la question, tu dois montrer ces signes.
Cette prime journalière se conforme au prix à la fois des vélos transportant le maïs et les marchandises vendues sur place. Lorsque l'argent manque, les vendeuses donnent du maïs, des haricots, du riz ou d'autres céréales. Les policiers chargés de la collecte se déplacent d'ailleurs avec un sachet pour récupérer la contre-valeur en nature.
Pour cette taxe, les vélos payent 200 francs. Nous, vendeuses de maïs, nous donnons 100 francs. Moi, j'ai donné le maïs parce que je n'avais pas 200 francs.
Du côté des autorités policières et municipales, la surprise est totale. Elles affirment ne pas connaître cette pratique et annoncent l'ouverture d'enquêtes au sein du marché. En attendant une solution, les femmes marchandes continueront d'étendre le bras chaque matin pour pouvoir vendre leur maïs en paix. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Rentrons dans la capitale, la RDC. Sachez que la saison sèche ne rime pas seulement avec soleil. Elle apporte aussi son lot de poussières devenu un véritable calvaire pour les motocyclistes. Sur plusieurs axes de la capitale, chaque passage de véhicule soulève d'épais nuages qui réduisent la visibilité et mettent à rude épreuve la santé des conducteurs. Entre irrités, grippes à répétition et difficultés respiratoires, les wewa, comme on les appelle, tirent la sonnette d'alarme. Reportage de la Chemba.
À chaque accélération, la poussière s'élève. À chaque passage de véhicule, un nouveau nuage envahit la chaussée. Sur l'avenue Kasavubu, entre la station Molard et Kitambo Magasin, les motocyclistes avancent souvent à vue, plongés dans un rideau de particules qui complique la circulation et augmente le risque d'accident. Même les équipements de protection peinent parfois à remplir leurs rôles. Certains conducteurs disent avoir dû changer leurs habitudes.
Au début de la saison sèche, j'ai porté toujours des lunettes pour me protéger de la poussière. Mais aujourd'hui, il y en a tellement que les lunettes gênent parfois ma visibilité. Je suis obligé de conduire sans mes lunettes.
Pour ce conducteur, la poussière n'affecte pas seulement la conduite. Elle s'invite aussi dans l'air quotidien, avec des conséquences directes sur leur santé. Les longues heures passées sur la route exposent les motocyclistes à de nombreux désagréments.
En cette période, notre plus grand problème, c'est la poussière. Les casques, les lunettes ou les cache-nez ne nous protègent pas totalement. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous tombent souvent malades.
Face à cette situation, les Wewa appellent les autorités à agir. Selon eux, un balayage régulier des principaux axes de circulation permettrait déjà de limiter la poussière et de mieux protéger la santé des usagers.
Actualité internationale.
L'armée américaine a annoncé dimanche 19 juillet la mort d'un militaire dans le nord de l'Irak et samedi lors de la destruction contrôlée des munitions non explosées provenant d'un drone non iranien. Un autre militaire a été blessé, a précisé les commandements américains pour le Moyen-Orient, CENTCOM.
L'invité.
À Goma, 53 adolescents viennent de boucler 10 jours de formation intense en initiative personnelle. Organisée par l'association G7 Group, cette initiative vise à faire de ces jeunes des futurs leaders au sein de leur communauté. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui John Mpakanié, chef de bureau en RDC de l'organisation Eastern Congo Initiative, qui a soutenu ces projets en faveur des jeunes. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
John Mpakanié, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir cette formation?
Déjà, Eastern Congo Initiative, c'est une organisation de droit américain qui opère en RDC depuis 2010 sous deux piliers principaux, l'autonomisation de femmes et le développement économique. Nous essayons d'accompagner toutes les initiatives communautaires, n'est-ce pas, qui pourraient développer, faire avancer la vie du Congolais au quotidien. Donc pour nous, c'était une occasion, une opportunité à encourager, voir le G7 Group qui organise une formation en faveur de jeunes adolescents. Nous avons pensé que c'était une opportunité que nous devrions accompagner parce que le changement, en fait, commence par la base. Et c'est ce que nous croyons. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va bâtir le Congo de demain. On veut une jeunesse qui n'est pas seulement demandeur d'emploi, une jeunesse qui veut apprendre plus tard, mais une jeunesse qui apprend déjà de le bas âge, à la base. Donc nous avons été contents de réaliser cette initiative auprès du groupe G7. Et nous nous sommes dit, eh bien voilà, pourquoi pas. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous avons été très satisfaits de ce qui a été présenté. Des acquis que les enfants nous ont montrés durant les parcours de 10 jours de formation et la présentation d'aujourd'hui, c'était très satisfaisant pour nous.
Donc commencer aujourd'hui à initier les enfants sur l'initiative personnelle, l'entrepreneuriat va aider dans 5-10 ans à avoir des jeunes diplômés qui ne restent pas au lit.
Bien sûr, aujourd'hui nous avons vu les enfants, les jeunes enfants, les juniors de 11 à 12 ans qui nous ont présenté des projets de réflexion avec des termes techniques qu'on n'a pas connus, nous, à notre époque en tout cas. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Si aujourd'hui chaque enfant peut grandir, n'est-ce pas, avec une idée de se rendre autonome, n'est-ce pas, de créer de l'opportunité autour de soi, ça va changer. Ça va changer tout le parcours, ça va changer toute la situation sociale au niveau de la RDC. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans les ONG, c'est pas tout le monde qui va rentrer dans les services de l'État. Mais nous avons besoin plutôt de gens qui développent des solutions pour améliorer, n'est-ce pas, la situation sociale, pour améliorer les quotidien du peuple congolais. Donc pour nous, nous pensons que l'idée de former ces enfants, de commencer à les initier à ce genre de notions, d'idées, de réflexions, c'est une idée que nous avons besoin d'encourager, n'est-ce pas, et assurer que ça peut s'élargir à un grand groupe, n'est-ce pas, en dehors même des enfants qui sont à l'école. Pourquoi pas même les enfants qui ne sont pas encadrés ou qui sont dans des groupes ici et là, mais qui peuvent déjà être initiés, n'est-ce pas, à des initiatives, à des réflexions comme nous avons vu aujourd'hui.
Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'ils ont appris ces jeunes?
Oui, pendant les 10 jours, les jeunes ont appris à se découvrir, n'est-ce pas, le potentiel qui est dans chaque jeune. Ils ont appris à prendre confiance. Ils ont appris à développer, n'est-ce pas, le sens de réflexion, à identifier les problèmes autour d'eux, comment proposer des solutions même à ces problèmes, et à travers de petits projets. Ce sont de petits projets qui nous ont présentés aujourd'hui. Nous avons été très émerveillés de voir les jeunes qui s'expriment avec de termes techniques, avec une compréhension élevée à travers les jurys qui ont été organisés. Je parie que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir cette opportunité, comme je l'ai dit encore une fois. Mais sincèrement, aujourd'hui, nous pensons que Les jeunes qui ont participé à ce programme sont des jeunes différents. Comme on l'a dit, le sel et le miel de leur génération, et nous pensons qu'ils vont impacter. Et c'est très important d'assurer que tous les enfants du Nord Kivu, tous les enfants de Goma peuvent avoir cette opportunité de participer, d'avoir ce genre d'idées pour développer leur confiance, mais aussi leur milieu. Parce que ce qu'ils apprennent, ce sont les choses qu'ils vont répliquer. Ce sont les choses avec lesquelles ils vont grandir.
Et pour les jeunes, peut-être qui n'ont pas eu ce genre de formation en initiative personnelle, quels conseils vous leur donnez pour trouver leur chemin?
Dans chaque personne, en tout cas moi je crois, il y a toujours quelque chose de spécial. C'est pas que les jeunes ne savent pas s'orienter, mais ce sont les possibilités, les occasions qui manquent. Plutôt, je vais appeler à toutes les personnes, n'est-ce pas, les acteurs les acteurs sociaux, toutes les personnes qui ont de moyens, de possibilités, de connecter, d'aider, d'accompagner les jeunes, de s'activer. Parce que comme on l'a dit, c'est le Congo de demain.
Monsieur John Mpakanyi, je rappelle que vous êtes les représentants pays des Eastern Congo Initiative. Merci.
Merci à vous.
La plus belle femme du monde est Don Kesekelas. La fin de ce journal. Merci pour votre fidélité renouvelée à Radio Capi.